5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bien, bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Alors, Orion, chemin de l'espace, c'est l'actualité de la conquête spatiale, de l'aventure spatiale.
Comme chaque mois.
Comme chaque mois. Ce numéro, eh bien, nous allons voir trois thèmes, si vous voulez bien. D'abord, des nouvelles de Thomas Pesquet, parce que là, on a une rockstar, finalement.
Voilà, notre Français dans l'espace.
Ouais, qui marche fort auprès des jeunes, en particulier.
Beaucoup de communication sur les réseaux sociaux.
Voilà. On verra aussi, parce que c'est un anniversaire, il y a 50 ans de coopération plutôt rapprochée entre la France, l'URSS d'abord et la Russie aujourd'hui. Et puis, bien entendu, quelques mots sur l'actualité de l'espace avec des lancements, mais aussi dans le Wuzbou, un certain nombre de choses qui se passent avec les vedettes, les pionniers de l'espace.
Tout à fait.
Alors, d'abord, Thomas Pesquet, un mot quand même sur son départ. Enfin, ça a été très médiatisé.
Son départ a été très médiatisé. Il a été bien véhiculé. Donc, la Cité de l'espace, donc Olivier Sanguet, journaliste à la Cité de l'espace, a fait de très, très belles vidéos relativement courtes, hein, entre 3 et 5, 6 minutes. Donc, qui ont vu la préparation, l'arrivée de Thomas Pesquet sur le pâtir, le départ de Thomas Pesquet.
Donc on a vu beaucoup d'images, pour une fois c'est assez rare d'ailleurs de voir des lancements, des images de lancement, mais là, bon, France, Cocorico oblige.
Cocorico oblige, et puis j'imaginais toutes les personnes qui étaient à Baïkonour au moment du départ, à 2 km donc de la fusée Soyouz, qui est partie dans un bruit étourdissant, autant qu'une navette spatiale, me disait Olivier Sanguy, à 2 km, et comme il dit, si ça explosait, on était foutus.
Alors, vous qui êtes un bon observateur, est-ce que l'on peut dire que ce lancement de Thomas Pesquet marque une étape finalement dans l'opinion sur l'intérêt finalement que l'on a, que les gens ont à suivre? On était dans une sorte de banalisation.
Oui, et puis les astronautes qui étaient partis étaient tous un petit peu plus âgés, on va dire, que Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, 38 ans, donc préparation depuis 7-8 ans, on va dire, sélectionné parmi plus de 8000 candidats, donc pilote de ligne, ceinture noire de judo, enfin il a un CV vraiment très très complet.
Voilà, alors c'est vraiment un gars sympathique qui passe beaucoup, enfin qui passe très très bien auprès des jeunes. On voit dans ses communications, il a un langage qui marche fort.
Sympathique, je dis oui, parce que la première fois que j'ai rencontré, c'était en 2011 à la Cité de l'Espace à Toulouse, où on avait discuté comme nous le faisons actuellement derrière nos micros, vraiment très très ouvert sur tous les sujets. On peut aborder tous les sujets avec lui, et aucun souci.
Voilà, Thomas, si tu nous entends, le retour risque d'être très médiatique sur le plancher des vaches.
Alors effectivement aussi, il faut dire qu'au moment où sont partis les derniers astronautes, je pense à Léopold Eyhartz, en particulier, il n'y avait pas toute cette médiatisation, toute cette communication. On n'avait pas Twitter, Facebook, tous les réseaux Internet qu'on a aujourd'hui.
Voilà, c'est le plus jeune parmi tous les cosmonautes, astronautes, taïkonautes.
Non, il y a eu des plus jeunes.
Plus
jeunes encore.
Enfin, en France, en tout cas, voilà, il s'installe, il marque aussi certainement une nouvelle époque.
Il marque une nouvelle époque, oui, il y aura certainement une transition, puisque donc, la station spatiale sera maintenue par l'ESA jusqu'en 2024, avec la Russie et les USA. Donc après, les vols habités avec un Français, point d'interrogation.
Alors nous allons nous intéresser, juste après cette petite pause, aux expériences, parce qu'il mène un certain nombre d'expériences, en particulier dans le domaine médical. Il est à la fois cobaye, expérimentateur, et donc on va en passer chaque mois quelques-unes en revue.
Oui, parce qu'elles sont très nombreuses. Voilà.
Thank you.
Alors Jean-Michel, une des premières expériences médicales que mène Thomas Pesquet concerne la précision des gestes en micro-pesanteur. Donc on va comprendre en tout cas que la formation, la préparation, la sélection rigoureuse, c'est pas pour rien, parce que en fait c'est assez dur.
Tout à fait. Donc cette expérience s'appelle le GRIP. Donc les impacts de la micro-pesanteur sur le système nerveux restent mal connus, malgré tous les astronautes, cosmonautes qui sont partis dans l'espace. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on a des outils beaucoup plus performants grâce à l'informatique, grâce à la vision 3D. Donc l'expérience GRIP s'attache à mesurer la perte de précision liée à l'absence de gravité. Alors l'objectif, c'est de contrer la perte de dextérité des astronautes. Vous voyez, le bout des doigts, la manipulation. Donc on le voit lorsqu'ils sortent à l'extérieur, donc ils ont des gants. Donc les gants aujourd'hui sont beaucoup plus fins qu'ils étaient autrefois. Donc on a amélioré tout cela. L'expérience utilise un objet qui s'appelle Manipulandum, un instrument qui permet de mesurer en 3D la force et le couple appliqué par l'index et le pouce. Donc lors de cette expérience, les mouvements du coude et du poignet sont également enregistrés. Sur Terre, donc, les conclusions apporteront des informations précieuses pour l'élaboration de méthodes thérapeutiques pour les personnes atteintes de troubles de la motricité. Donc, on le voit très bien. Donc, tout cela aura des applications après au niveau des prothèses, dans la recherche médicale,
de la rééducation, de l'accompagnement.
Voilà. Oui.
Une deuxième expérience aussi, on est obligé de les passer un petit peu rapidement, bien entendu, concerne la perte de repères dans l'espace et puis les réflexes, la question des réflexes.
Alors, effectivement, lorsqu'on est dans l'espace, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. On est dans n'importe quelle position, on peut travailler, on peut faire ce qu'on a à faire. Et là, il y a une perte de repères. Parce que nous, lorsque nous avons les deux pieds sur Terre, on voit bien où l'on va, ce que l'on fait. Dans l'espace, c'est totalement différent. Alors, cette expérience s'appelle le GRASP, G-R-A-S-P. Donc, au-delà des effets directs de la micro-pesanteur sur le corps humain, l'un des changements les plus notables dans l'environnement spatial est, comme je viens de vous le dire, l'absence de haut de bas. Avec l'aide du système Perspective, ce sont les outils que Thomas Pesquet utilise, il testera ses réflexes grâce à la réalité virtuelle. Donc, tout ça, on leur met aussi des lunettes ou plein d'objets, des capteurs. Donc ils vont travailler, ils vont enregistrer tous leurs mouvements. Alors, il faut dire que tout cela a été testé déjà depuis de nombreuses années, notamment sur la station Mir.
En fait, chaque équipage poursuit le travail de ses aînés.
La recherche permanente, cette recherche qui a toujours existé en environnement spatial, donc se poursuit, et chaque fois qu'on va vers une nouvelle étude, vers une nouvelle recherche, la science a progressé, les outils dont on va se servir ont progressé, et avec les nouveaux outils, on recherche, on continue.
Est-ce que les retombées sont purement françaises ou est-ce qu'au contraire, elles sont communautaires, exploitées par l'ensemble des partenaires, en l'occurrence?
Alors, ces expériences que nous sommes en train de citer sont initiées par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, mais il est bien évident que le CNES ne va pas garder tout ça pour lui, ça sera partagé dans la coopération avec les différentes puissances spatiales.
Ce qu'on est en train de dire, c'est que les expériences que l'on est en train d'évoquer, et celles qu'on évoquera les mois prochains, ce sont des programmes qui sont choisis par le CNES.
Alors, ceux-là sont faits par le CNES, mais il y en a qui sont faits par la NASA, il y en a qui sont faits par l'agence Roscosmos, pas dans l'ISS, mais on a une collaboration avec la Chine aussi, mais donc dans leur station. Donc, vous voyez que tout ça, c'est une recherche permanente entre tous les États. Il y a une coopération, et bien sûr, puisque l'objectif, c'est d'améliorer la vie de l'homme sur Terre, la recherche médicale, on partage.
Alors, on voit une première expérience sur la précision des gestes, deuxième qui concerne les réflexes, la perte de repères, et puis une troisième qu'on va évoquer ce mois-ci, c'est les dépenses énergétiques et l'alimentation. Donc,
Alors, il est bien évident qu'en micro-pesanteur, on n'a pas tout à fait la même dépense énergétique.
Est-ce qu'on consomme plus ou moins
C'est totalement différent d'abord, suivant les astronautes, suivant leur activité. Alors, ils sont obligés, ça fait partie du programme spatial, d'avoir d'avoir de faire de la course sur un tapis roulant, d'avoir
oui, on a vu ces images, c'est vraiment
voilà. Donc ouais. Il faut faire
sportif.
Il faut faire du sport, donc faire travailler son corps, hein, puisqu'on a son corps a tendance à grandir, hein, la colonne a tendance à s'allonger. Donc il faut vraiment travailler pour cette dépense énergétique. Alors après, il faut s'alimenter. Alors pour s'alimenter, on va faire un petit cocorico, puisque notamment les menus qui sont dans la station spatiale sont préparés par des grands chefs français.
Grand chef
notamment,
français.
On peut citer Alain Ducasse qui prépare des sachets lyophilisés avec des menus équilibrés, donc pour pallier à cette dépense énergétique.
Voilà, pour Noël, il y a un régime un petit peu particulier.
Alors effectivement, pour Noël, ils ont une amélioration. Donc, ils sont ravitaillés par tous les cargos, donc le Cygnus, chez SpaceX aussi, avec l'HTV japonais. Donc,
En tout cas, on lève un voile quand même sur un certain nombre de questions qu'on entend ici, là. Pourquoi on va dans la Lune? Pourquoi on va dans l'espace? À quoi ça sert tout ça? Ça dépense beaucoup d'argent. On voit effectivement qu'il y a de la recherche, et de la recherche peut-être même un peu fondamentale, tout à fait là-haut, mais qu'avec le souci quand même d'avoir des retombées terrestres pour l'ensemble des populations, notamment du point de vue médical.
Ah oui, là, des retombées médicales sont énormes, donc on n'en mesure pas dans le quotidien toutes les retombées qu'on a eues depuis la conquête de l'espace. Je pense souvent, je cite tout l'outillage électroportatif qui a été conçu dans l'espace lorsqu'il y avait des sorties, les EVA, les sorties extravéhiculaires.
Vers les piétons de l'espace. Quoi,
voilà, donc il y a eu énormément de recherches qui ont été faites là-dessus. Nous en avons les applications au quotidien.
Alors 50 ans de coopération franco-URSS et franco-russe.
Tout à fait.
Ça a commencé en 1966 avec le général de Gaulle.
Voilà, le général de Gaulle qui, donc, son souci d'indépendance par rapport aux deux blocs en cette période de guerre froide, a tendu un petit peu la main aux Russes pour initier les programmes spatiaux dont nous avons les retombées aujourd'hui. Et les jeunes ingénieurs qui sont partis à cette époque-là ont commencé à travailler avec les Russes, ont établi des relations, de très bonnes relations, notamment, nous parlions tout à l'heure de la recherche scientifique, des applications. Donc ce programme a été initié il y a une cinquantaine d'années.
Donc en fait, c'est également 1966, c'est aussi la création du CNES. Donc
le CNES a été créé en 1960.
Voilà. Donc c'est déjà le premier pas, j'allais dire, de coopération.
De coopération. Enfin,
en tous les cas, de l'idée de travailler à l'international et notamment avec... Et qu'est-ce que, finalement, cette coopération a produit d'important?
Écoutez,
se traduit par quoi?
Ça se traduit par des rencontres. Alors, la semaine dernière, avait une rencontre à la Cité de l'Espace à Toulouse avec des gens qui ont vécu tout cela, donc dont beaucoup sont à la retraite. Mais donc, il y a eu une table ronde avec des rencontres, des films, exposition de matériel. Et je pense à ce jeune ingénieur en 1968, aujourd'hui à la retraite, hein, qui dit « Je suis parti tout seul avec ma petite valise à Moscou pour initier la coopération franco-soviétique à l'époque. » Bon, partir à cette époque-là tout seul en Russie au temps de la guerre froide, il y avait quelques soucis, quelques inquiétudes, mais il a été bien accueilli. Il a parlé du vécu de l'époque. Hein. Il était quand même surveillé, espionné dans son hôtel, tous ses gestes, tout ça. Et il rencontrait des gens dont il ne savait pas s'ils étaient scientifiques ou s'ils étaient là pour le surveiller. Et puis après, il y a eu tout le parcours jusqu'à la chute du mur de Berlin, où ce jour-là, les chercheurs russes ont été autorisés à parler. Et alors là, ils ont beaucoup parlé, puisque la parole qu'ils avaient pu retenir pendant de nombreuses années, ils ont énormément vraiment communiqué avec nos ingénieurs français et ça a été excessivement riche.
Alors pour tous nos auditeurs qui ne le savent pas encore, Jean-Michel est notre envoyé, si ce n'est permanent, plus que régulier à la Cité des Sciences, parce que à la Cité de l'Espace, pardon, à Toulouse, parce que c'est quand même là que c'est le siège de la grande famille, quoi, de tous ceux qui aiment l'espace et ou qui y sont allés et qui en sont revenus.
Oui,
il y a, passionné.
Ben c'est là où j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'astronautes, hein, français et russes, de pouvoir discuter avec eux, d'avoir des échanges. Et puis, ce qui est intéressant, c'est les conférences, des grands professeurs, hein, ceux qu'on voit souvent dans les médias qui parlent. Mais il est intéressant aussi de rencontrer les gens qu'on n'a pas vu, ceux qui ont travaillé sur les programmes, qui ont participé à toutes ces missions du début jusqu'à la dernière mission Rosetta, et ceux qui ont vraiment fait les programmes, qui ont vécu tout ça de l'intérieur et qui peuvent communiquer des petites anecdotes qui sont succulentes, qui sont intéressantes, et ça enrichit, ça fait un tout.
Alors, dans cette coopération, il y a eu un certain nombre d'expériences, de travaux importants, en particulier sur les rayons gamma.
Les rayons gamma, voilà.
Rappelons quand même ce que sont les rayons gamma dans...
Ah, ce sont les sursauts d'un trou noir, hein. Voilà. On prend la matière à une étoile très proche.
Ouais. Mais les effets sur l'homme sont quand même assez dangereux.
Les effets sur l'homme sont assez dangereux. C'est vrai que dans les rayons gamma, on ne l'arrête pas, hein. Il passe. Hein,
C'est un des soucis permanents des astronautes, de l'ISS en particulier, lorsqu'ils doivent sortir.
Alors ça avait été initié dès les années 60, fin des années 60, avec... un télescope Sigma, hein, qui a été fait avec les soviétiques à l'époque, qui a permis donc de travailler sur ces sursauts gamma, hein, comme on parle souvent, qui ont été découverts, d'ailleurs ces sursauts gamma ont été découverts tout à fait par hasard, alors par les Américains, et la recherche continue là-dessus.
Voilà. Alors dans la coopération, bien sûr, et ça continue, je pense, aujourd'hui, c'est toute la préparation des vols habités et de la préparation des cosmonautes.
Voilà. Si vous voulez, au sein du CNES, il y a plusieurs entités, hein, donc le Centre national d'études spatiales, il y a l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et en planétologie, il y a le CADMOS, qui est le Centre des opérations spatiales et des études en micro-pesanteur, et là où il y a eu, justement, où la coopération franco-soviétique et puis franco-russe a été très très importante.
Au sein du CADMOS.
Voilà. Oui. Donc, puisque, notamment, à la Cité de l'Espace à Toulouse, on a eu l'occasion de voir plusieurs fois le docteur qui avait préparé Gagarine lors de son vol.
Donc, 50 ans de coopération entre la France, l'URSS et la Russie aujourd'hui.
Très, très riche.
L'histoire continue. Alors l'actualité spatiale maintenant, le grand titre c'est quand même la mort de John Glenn.
John Glenn, 95 ans.
95 ans.
Voilà. Pionnier, donc fait partie de ce qu'on appelle souvent aux USA les 7 de Mercury, hein, avant les vols sur la Lune. Donc John Glenn fait partie de ces 7 astronautes. Donc vous pouvez voir, il y a un film qui s'appelle L'étoffe des héros, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Il retrace un petit peu l'histoire de ces 7 de Mercury, ces 7 astronautes qui partaient à l'aventure dans les années 60.
Alors John Glenn, 95 ans, au passage, on voit qu'on peut bien vieillir tout en étant cosmonaute.
On peut bien vieillir, et puis John Glenn, il a quand même une particularité à son actif, c'est qu'il est reparti dans l'espace à 77 ans. Avec la navette Discovery, donc il a fait un vol, c'est le plus vieux des astronautes, enfin celui qui a fait le vol dans un âge le plus âgé.
Thomas Pesquet n'est pas tout à fait le plus jeune, mais John Glenn était le plus ancien.
Voilà.
Alors une autre, effectivement, dans l'actualité... une autre news, entre guillemets, c'est notre ami Buzz Aldrin.
Alors Buzz Aldrin, qui est inlassable. Hein,
Buzz Aldrin, rappelons quand même...
Deuxième homme
jeunes,
sur la Lune.
Voilà. C'est le deuxième à avoir posé le pied sur la Lune.
Tout à fait. Voilà. Donc après Armstrong. Hein. Donc Bezadryn, ben inlassable parcoureur de la Terre.
Il est en forme parce que
il est en forme puisqu'il était au pôle sud.
Il était au pôle sud et que voilà. ça a un petit peu mal passé.
Il a fait un malaise. Rapatrié rapidement, donc avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc il est soigné en Nouvelle-Zélande actuellement.
Alors j'ai noté qu'il avait un médecin tout à fait showbiz lui aussi.
Ah, il a un médecin puisque le nom de son médecin ne s'invente pas. C'est le docteur David Bowie.
David Bowie, toujours là. Voilà. Bien. Donc John Glenn, Aldrin, voilà en oui. fait.
Alors Aldrin, il faut noter qu'il vient souvent en France. Il vient en Suisse, donc il voyage beaucoup et on espère qu'il se rétablira vite puisque en 2017,
une grosse rencontre,
au mois d'octobre, il y a le Congrès mondial des astronautes à Toulouse.
Bien. Donc on salue effectivement ces deux héros, bien entendu la mémoire de John Glenn, et puis on souhaite à Aldrin de revenir très vite, notamment à Toulouse. Alors l'actualité c'est aussi toujours des lancements, importants, et puis quelques petites aussi nouvelles des cargos ravitailleurs voilà. par exemple.
Alors qui passe souvent inaperçu, c'est le lancement de la petite fusée Vega, donc de Kourou en Guyane, la petite fusée Vega qui a mis sur orbite le premier satellite turc d'observation de la Terre. Donc vous voyez que chaque puissance aujourd'hui, chaque nation peut accéder à l'espace en sous-traitant donc aux puissances qui lancent, on va dire donc
dont la France.
Donc la Turquie a lancé son premier satellite.
Alors on rappelle quand même que la fusée Vega dans la palette des lanceurs, elle est spécialisée dans les petits,
Des petites charges. Ouais. C'est un petit lanceur. On a pris, si vous voulez, un booster donc d'Ariane 5, qui a été reconverti en fusée Vega
pour vivre sa vie tout seul.
Voilà.
Et finalement, il est bien utile parce qu'il y a toujours, on le rappelle, assez régulièrement, mais il y a une évolution vers une multitude de petits satellites, plutôt que des très gros qui peuvent exister aussi. Aujourd'hui, la tendance est d'en avoir des kériels, et il y en a beaucoup. Donc, la fusée Vega,
oui.
Est-ce qu'il y a eu d'autres lancements ce mois-ci
Alors, il y a eu un lancement en Chine, donc il y a des lancements aussi du côté des USA. Et surtout, ce qui est important pour notre station spatiale, c'est le cargo HTV, donc japonais, qui ravitaille la station spatiale, qui est partie le 9 décembre, donc qui apportera certainement les menus de Noël à nos astronautes.
Voilà, préparé par Ducasse, bien entendu.
Entre autres.
Eh bien Jean-Michel, pour terminer cette émission, et comme c'est l'usage désormais, quelques conseils de lecture.
Alors je vous invite à découvrir un livre excessivement riche, un pavé de 400 pages, donc c'est 50 ans de coopération spatiale France-URSS-Russie. Donc aux éditions Tessier et Ashpool, donc 1966-2016. Et dans ce livre, vous retrouvez des choses qu'on a pu dire dans cette émission, toute l'histoire entre les scientifiques français, les scientifiques russes, jusqu'en 2016, donc aujourd'hui où les échanges sont vraiment à la portée de tout le monde, donc excessivement intéressant.
D'autres recommandations ?
Oh, il existe beaucoup de livres sur l'espace. Il en sort notamment, je pense, au tout jeune, puisqu'aujourd'hui, dans toutes les petites collections, vivre dans l'espace, aller dans une station, aller sur une planète. Donc, vous avez en librairie une multitude de petits ouvrages qui peuvent sensibiliser nos plus jeunes lecteurs.
Voilà. Et puis, bien entendu, le site de
notre
association
site Orion,
favorite,
oui,
Orion 43.
www.orion43.fr. Alors, notre site, il va évoluer en 2017. Ça sera notre cadeau de Noël du site Orion. Donc, le faire évoluer, l'adapter aux technologies d'aujourd'hui. Donc, nous découvrirons tout ça au mois de janvier.
Donc, on peut rappeler que sur ce site, l'association annonce un certain nombre d'événements, surtout l'été, les soirées d'été, la météo, l'été. thèmes, le thème des conférences en particulier, etc. Oui. Mais que c'est aussi trouver la possibilité et les adresses de sites, j'allais dire, qui sont...
Des sites amis. Des sites amis ou des sites qui sont... notamment, ben, je vous parlais tout à l'heure de la Cité de l'Espace.
Voilà.
Vous allez retrouver là-dessus des liens qui vont vous emmener directement à la Cité et dans l'espace.
Voilà. Eh bien, écoutez, tout à fait sur Terre, mais la tête dans les étoiles, nous vous souhaitons effectivement d'abord un joyeux Noël et puis de bonnes fêtes. Et nous vous disons, Jean-Michel et moi, à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.